بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفعني الإسلام نغميت الله سبحانه وتعالى تدنى possibility de reprendre ce soir inshallah des programmes concernant la résurrection et le monde de l'au-delà. Et le point sur lequel on s'était arrêté avant les vacances, c'est la situation des gens pieux le jour des comptes. La situation des gens pieux le jour des comptes, c'est-à-dire les gens qui n'auront la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les gens qui n'auront ni crainte ni angoisse. On peut éteindre un peu, il y a 12 ventilateurs, on est, hein. Jazakallah. Donc ces personnes qui auront une situation enviable, la plus belle des situations, le jour de la résurrection, on avait commencé à voir que le premier signe qui distingue ces personnes, c'est que le jour du mahshar, le jour de la résurrection, ces gens-là seront invités pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Qiyam. On avait dit que quand une personne est invitée par Allah azza wa jal pour rester, pour être abritée sous l'ombre de son trône, c'est bushra. C'est une bonne nouvelle pour cette personne que toutes les autres étapes qui vont venir après, ce seront là que des ouvertures, que des facilités, ce seront là que des rahmas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dès le départ, si une personne se voit ressusciter avec les gens qui font des erreurs, des péchés, et il se voit souffrir sous la chaleur accablante du jour de la résurrection, c'est une mauvaise nouvelle. Et la personne sait que les étapes qui vont venir vont être de plus en plus difficiles. Dans un tafsir qu'on avait vu récemment également, il est dit qu'il y aura des mu'mines, des gens qui avaient la foi, qui vont se présenter devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, vous savez que lorsqu'Allah azza wa jal appelle un serviteur devant son tribunal, Allah l'appelle seul. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de supérieur hiérarchique, il n'y a pas de moulissab, de mufti, de fundi ou de qui que ce soit qui vient vous assister. Et le hadith décrit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître des péchés qu'il a accomplis de ce dunya. Cette personne n'aura d'autre choix, d'autre possibilité que de reconnaître les erreurs qu'Allah azza wa jal est en train de citer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui annoncer la bonne nouvelle que pour ces péchés que tu avais accomplis, je t'ai accordé mon maghfira, mon pardon. Ça, ce sera une situation honorifique pour cette personne. Ça fera partie des gens qui auront ce qu'on appelle hisab et yassira, un compte facile, le jour de hisab. Mais malheureusement, d'autres personnes auront des difficultés. Maintenant, pour être sûr, comme on a dit tout à l'heure, la plus belle des nouvelles, la meilleure des issues, ce serait que dès la résurrection, la personne se voit invitée pour être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Et on avait cité dans ce grand hadith très connu, donc différentes catégories de personnes, le imam Adil, un dirigeant qui était juste, et on avait vu également un jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et la troisième catégorie de personnes, on avait vu que c'est une catégorie beaucoup plus accessible, et certainement accessible à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de nécessite pas de conditions. C'est les gens qui auront le cœur rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, le musulman qui a le cœur attaché aux mosquées. On avait donné une définition la dernière fois, enfin les fois d'avant, quelques signes, et donc on va continuer. La grande question est de savoir comment puis-je être sûr si je fais partie des gens dont le cœur est attaché à la masjid. Par exemple, là, on est la salat al-isha, on est mardi soir, on en a les cycloniques apparemment. Alhamdulillah, la masjid, elle est remplie. Alors, on peut se demander, est-ce que toutes les personnes qui sont présentes à la masjid, on les considère, ça c'est Allah seul qui juge, on n'est pas là pour considérer, juger du tout. Ça, c'est pas notre travail, ça. Mais on aimerait savoir, est-ce que on mérite cette sifat? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal m'accorde cet honneur. Est-ce que je peux prétendre, là, dans la manière que je pratique ma religion, dans ma relation avec la masjid, honnêtement, si on pouvait éteindre le ventilateur, ça nous arrangerait. Ou alors mettre le plus faible possible, parce que ça fait du bruit, puis il faut parler fort. Jazakallah khair. Donc, pour revenir, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ma fréquentation de la masjid, périodique, régulière ou non, est-ce que cela me permet de rêver
est-ce que cela me permet d'entretenir l'espoir d'être un jour appelé sous l'ombre du trône d'Allah, c'est-à-dire de faire partie des gens dont les cœurs étaient attachés à la masjid? C'est ça la grande question. C'est ça la question que chaque musulman doit se poser, parce qu'on essaie de gravir les échelons, on essaie de monter en grade au maximum, on essaie de préparer son akhira. Tout comme beaucoup de gens ils préparent le dunya qui vont vivre 70, 80 ans, on prépare toute notre vie, Wallah Musta'an, on consacre notre temps, nos biens, notre intelligence, tout ce que nous possédons, nos bienfaits, on consacre pour le dunya qui ne dure pas longtemps. Maintenant, pour le delà, pour le akhira qui est éternel, on a besoin de préparer. Et quand on se dit préparer le akhira, c'est pas juste on se dit je fais des bonnes actions pour le paradis. C'est ça le schéma. C'est ça le schéma. Faire des bonnes actions pour le paradis. Mais avant de parler du Jannah, d'entrer au paradis, mon Dieu, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de passages, il y a tellement de difficultés qu'il faut franchir d'étape en étape avant de dire que je veux entrer au paradis, je souhaite être au paradis. Et parmi ces étapes, c'est comment on va être ressuscité. Ça, c'est la première étape et l'étape cruciale qui nous permet de savoir comment se déroulera les autres étapes. Parce qu'après ça, il y a d'autres étapes. Il y a quand Allah nous appelle près de son tribunal. Il y a lorsqu'on passe à la pesée, lorsqu'on reçoit les livrets de compte, lorsqu'on passe sur le sirat, lorsque après le sirat, s'il reste des erreurs qu'on a fait par rapport aux gens, huququn nas, les droits des gens, on croit que c'est parti, on va entrer dans le paradis. Hein, j'allais dire le doigt d'Al-Nis, astaghfirullah. On va entrer dans le paradis, tranquille, balèze, avec des montagnes de hasanat. J'ai fait 40 hajj dans ma vie, 20 umrah, je suis hafiz al Quran, je suis blindé. La personne a passé sur le sirat avec une vitesse, alhamdulillah, mais la personne se voit rappeler parce qu'il a insulté, il a humilié, il a fait du tort à telle personne, il a opprimé. C'est ce qu'on appelle les derniers qanfara, les dernières étapes avant l'accès au paradis. Bref, toutes ces étapes-là, il faut travailler. Quand on dit je prépare mon akhira, c'est je prépare chacune de ces étapes. Et donc, la première étape que je dois travailler, c'est objectif, avoir une place sous l'ombre du trône d'Allah. Comme les grands joueurs, enfin les grands joueurs, les joueurs de football, pour eux l'objectif, c'est d'être dans un club qui va jouer la Champions League. Parce que là, tout le monde va me connaître, et puis là, même si je suis dans un petit pays pas trop connu, bref, c'est des objectifs que une personne intelligente doit se fixer. Quand je travaille dans une entreprise, je suis salarié ou SMIC, mon objectif c'est quoi? C'est-à-dire qu'après 5 ou 6 ans, ben, j'accède à un poste de chef de service, je sais pas moi, chef de rayon, supérieur, si je suis comptable, je deviens chef comptable, si je suis, etc., etc. C'est-à-dire, l'être humain intelligent, c'est celui qui planifie, il se fixe ses objectifs. Ben, l'être humain, le mu'min, pareil. On doit se fixer des objectifs, je dois essayer de trouver une solution pour être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, le jour des comptes. Et donc, on a un panel de 7 qualités, 7 sifats différents. Pour le jeune, si je suis encore jeune, j'ai encore 15, 16, 17, 20 ans, je peux espérer être parmi les jeunes qui auront grandi de l'obéissance d'Allah, alhamdulillah. Maintenant, si je ne suis plus tout jeune, j'ai un certain âge, et la seule chose que qui peut être accessible, hein, la seule chose, on ne réduit pas la chose, hein, c'est espérer que avec mes salats, avec ma fréquentation de la masjid, je peux être sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Qiyam. Donc, voilà, on va essayer de voir mon rapport avec la masjid est-elle suffisante pour faire partie de cette catégorie de personnes. Et nous allons voir comment les sahaba, comment les tabi'in, les atba'i tabi'in, comment ils fréquentaient la masjid. Qu'est-ce qu'on appelle fréquenter la masjid réellement? Dans, je crois que c'est la dernière fois, on avait cité pas mal de récits de Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, tabi'in, très connu. Hein, il dit que depuis 40 années, je n'ai jamais vu, vous vous rappelez, 40 années, j'ai jamais vu la nuque d'une personne dans la salat en congrégation. C'est-à-dire que ces 40 années-là, il était au premier saf. 40 années, il n'a jamais été au deuxième saf. Il ne parle pas de rater un namaz, là. Il ne parle pas de faire salat, de rater un rakat. Il parle de ne pas être au premier saf. C'est-à-dire 40 années, je n'ai pas vu, on va dire, le dos d'une personne dans l'accomplissement de mes salats. Uthman ibn Hakim, rahimahullah, il dit également, là on est avec les tabi'in même, il a dit que pendant 30 années consécutives, lorsque le muazzin donnait le adhan, j'étais déjà dans la masjid. Alors là déjà ça nous casse là. Là on se croyait que m'y vient 5 fois par jour à Montreuil, Alhamdulillah, ça va, en forme, je fais partie des gens dont le cœur est attaché à la masjid. Mais voyez les mithals, les exemples, les modèles. On voit quelqu'un comme Uthman ibn Hakim, 30 ans, quand Mouazzin donne le adhan, je suis déjà de la masjid. N'a pas dimanche, n'a pas joué à faillir, n'a pas rien, hein, pendant 30 années. Bishr ibn Asim, rahimahullah, il dit que j'ai demandé à Saïd ibn Musayyib. Il dit que, oh Saïd ibn Musayyib, hein, tu passes l'essentiel de ton temps à la masjid. Apparemment, par rapport à ce récit, on comprend que la mosquée était éloignée de sa tribu, de sa famille. Il dit que, ya am, ala takhruju fata'kulu al-yawma ma'a qawmik. Oh mon oncle, aujourd'hui au moins, reste avec nous. Mange avec nous, avec ta famille. C'est-à-dire qu'il voulait dire que aujourd'hui tu n'iras pas à la masjid, tu resteras avec la famille pour manger. Il dit Ma'ad Allah ya bin akhi, qu'Allah nous protège, ô mon neveu. Il a dit je vais délaisser une action qui vaut 25 salats pour un repas. Il a dit une action qui m'apporte 25. Combien de fois on a entendu ce hadith? Un salat accompli en congrégation vaut 25 à 27 fois plus. Mais est-ce que haqiqa, réalité, yaqin, conviction sur cette parole entre dans les cœurs? On le dit, on le répète, on l'entend, mais ça reste sur le bout de la langue et au niveau de l'aube de l'oreille. Il dit l'aube de l'oreille parce que il rentre pas dans nos oreilles encore. Saïd al-Musayyib, il dit que comment vous m'invitez à un festin, vous m'invitez à un repas familial, je suis d'accord, mais si le prix à payer c'est de rater une salat en jamaat, non. Parce que cette salat-là, là, mon neveu, il parle à son neveu, cette salat-là, mon neveu, il vaut 25 salats. Je vais abandonner 25 salats pour un boucher-manger, comme on pourrait dire. C'est tabi'in. Eux, ils avaient compris l'importance et la réalité de toutes les vertus autour de la prière en congrégation et d'une manière générale. C'était une compréhension éclairée du dîn. Ça ne se limitait pas à des citations, des hadiths. Quand ils entendaient quelque chose, là, ils comprenaient. Yaqin rentre dans le cœur directement et ça se transforme en quoi? En amal, en action. Nous, on a beaucoup de bayan, on aime écouter, on télécharge MP3, MP4, on écoute, on va chez tel site, tel book, tel pays. Mais, amal, où est l'action? Les tabi'in, et avant eux, les sahaba, chaque parole, hufad al-Qur'an, parmi les sahaba, comment ils étaient? Sahaba, il dit que on ne dépassait pas, combien de versets? 10 versets, sans comprendre, tirer les conséquences du verset et mettre en pratique dans notre vie. Ça, c'était Sabak. Sabak Sipara, comment il est dans? Le dehors, comment il est? Les révisions. Avant, on fait un demi-djouz, mettre le demi-djouz en pratique. Quelqu'un dit, lis-moi premier cas, al-Baqara. N'importe qui peut lire sans faire une faute. Premier cas, al-Baqara. Maintenant, on dit, lire ce Baqara avec Amal. Ah, là, s'il faut compter les fautes, je parle de moi en premier, qu'Allah me pardonne, celui qui parle est vraiment mal placé, nasallallahu alayhi wa qu'Allah nous pardonne et nous accorde vraiment les degrés malgré nos manquements. Parole magnifique de Saïd ibn Sayyib, man hafidha, celui qui reste ferme, ala salawat al-khamsa fi jama'a, celui qui toute sa vie reste ferme dans ses cinq salats accomplis en congrégation, faqad mala al-barra wal-bahra ibada. C'est comme si qu'il a rempli la terre et le ciel de ibad. C'est pas quelque chose d'énorme. Rester ferme dans les cinq salats en congrégation. Rate pas un rakat. Rate jamais un namaz en jamaat. C'est comme si que tu as rempli tout l'espace de la terre et des cieux avec des hasanat, avec des ibad. Et quelqu'un qui se présente devant le tribunal d'Allah avec autant de choses, il a grand espoir qu'Allah l'accepte. Signe. C'est un converti. Je sais pas si, non, dans l'assemblée, il y a personne qui est converti. Oui, notre frère Issa, converti. Il dit que, Adi, rahimahullah, il dit que, ma uqimatis salah mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Il a dit, depuis que je me suis converti à l'islam, là, on peut se dire que oui, mais sahaba, oui, tabi'in. Non converti, mon frère également. Quelqu'un qui s'est converti à l'islam, il dit que, depuis que j'ai embrassé l'islam, à chaque fois que la salah commence, j'étais là, déjà en état de pureté. Chaque fois, depuis que je me suis converti, chaque fois que la salat, il a iqama, j'étais déjà présent en état de pureté, c'est-à-dire jamais raté ce qu'on appelle le takbir oula, le début de la prière avec le imam. Même un amir al-mu'minin. On a entendu parler de Umar ibn Abdul Aziz, l'homme le plus juste. Hein, certains le qualifient comme le cinquième calife, d'accord? Le calife le plus juste. D'accord? Il dit que son mu'adhin, il dit que Enfin, c'est quelqu'un, Souleyman ibn Moussa, il dit que je voyais tous les jours le muadzin de Omar ibn Abdel Aziz, d'accord, qui, lorsqu'il allait à la masjid pour donner le adhan, il disait Assalamu alayka, Amir al-Mu'minin wa rahmatullah. Il faisait juste le salam Amir al-Mu'minin pour le signaler qu'il va donner le adhan. Immédiatement, à peine a-t-il fini, que Omar, hein, il sortait, il se retrouvait déjà à la masjid pour chaque adhan de chaque salat, alors qu'il est Amir al-Mu'minin. Et quand on dit Amir al-Mu'minin, c'est pas chef de service, c'est chef des croyants. C'est-à-dire que tu es, c'est un président, c'est un roi, c'est ce que vous voulez, un dirigeant qui ne rate pas une prière en jama'a, qui est présent à chaque fois que le muadzin va donner le adhan. Comment puis-je savoir si mon cœur est réellement attaché à la masjid? Très simple. Celui dont le cœur est attaché à la masjid, là ça va faire très mal, ne ferait jamais passer une chose de dunya avant la prière en jama'a. Exemple, de le kitab dit que il y a l'histoire de Al-Harith ibn Hassan, hein, c'est un sahaba, et il venait de se marier. Il venait de se marier, et le soir, hein, pendant la nuit de noces, immédiatement après le matin, ben c'était la, ce qu'il dit, Tazawwaja Al-Harith ibn Hassan, faqila lahu. Voilà. Il venait de se marier, et le lendemain, bonne heure, on le voit déjà sortir de la maison, sortir. Et quelqu'un dit, ben, oh Hassan, Harith, pardon, oh Harith, tu viens de te marier et tu quittes ta femme. Il dit, ben, et, il dit, tu aurais pu, hein, rester chez toi pour la nuit de noces, le soir, pour la salat et tout, la salat de Fajr. Il dit, Wallahi, inna mra'atan tamna'uni min salat al-ghada fi jama'a, la mra'ata su. Il a dit, si cette femme est un obstacle pour l'accomplissement de la prière de Fajr, c'est une mauvaise femme. Nous, quand on se marie, enfin, nous, quand on se marie, hein, ça, on se marie pas tous les jours. Quand quelqu'un se marie, c'est nuit de noces, direct, il va mourir, il va aux Seychelles, il va, je sais pas, quel endroit. Mais il n'y a pas de masjid, il n'y a rien. Mais pour sahaba, hein, je me suis marié, mais en aucun cas, ce mariage ne doit m'empêcher de faire la salat en jama'a. En aucun cas. Les jeunes mariés, quand ils se marient, le fajr, même, ils sautent. Il a fait la fiesta toute la nuit, après, je sais pas, enfin, ce qui se passe après, hein, les découvertes et tout, ce qui fait qu'après, l'épuisé, il manque vitamine, parfois, il a besoin d'infusion de sang et tout. Bref, il peut pas venir namaz, fajr, en jama'a. Il trouve pas la trace pendant plusieurs jours. D'accord? Oui, une jeune, il mange n'importe quoi, on a plus la force, c'était Allah, etc. Bref. Et nous, malheureusement, comme on dit, en créole, point oui, point non. C'est-à-dire, sans raison valable, on rate la salat en jama'a. Une invitation chez un tel, allons manger, qu'il les mange, remagré pricha, remagré, allez, allons manger, après on a fait namaz à case. Sans raison valable. Certes, le masla précise bien que si le repas est prêt et qu'il y a salat, on mange après, on fait la salat. Ça, c'est le masla, c'est le hadith, ça. Il n'y a rien à dire. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, entre autres, il a rapporté. Mais, si on peut s'organiser, quand c'est, on va dire accidentel, c'est occasionnel, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, qu'Allah me pardonne, je ne suis pas là pour parler des gens, mais des personnes qui travaillent toute la journée, et quand ils rentrent chez eux à 16h ou alors 18h, c'est fini. À la limite, Maghreb, il vient, mais après Maghreb, fini. On ne le trouve jamais Isha. Pourquoi? Parce qu'après Maghreb, il est fatigué, donc il s'estime fatigué. Il est fatigué, alhamdoulilah. C'est une bonne action, il a travaillé, il a eu son rosé halal, alhamdoulilah. Il prend son bain, il va passer à table, et après il va s'asseoir, son relax, regarder l'actualité, regarder séries, regarder, je ne sais pas, quelles étaient les affaires, télévision. Et la salat Isha, Inch'Allah, bonne pensée, il le fait, mais il fait chez lui. Le problème, c'est que c'est devenu un automatisme. La personne se dit que il travaille, il est fatigué, donc après c'est bon, je pose, Allah est Ghafur Rahim. Ya akhi, jamais délaisser une salat en jama'a, sauf daroura, cas de figure extrême. Hein, quelqu'un est malade, va amener à l'hôpital et tout. Mais même pour une invitation, on essaie d'arranger. Quand on peut arranger l'heure du repas, on arrange l'heure du repas. Quitte à manger tôt après Maghreb, mais qu'on soit là à la salat, l'Isha. Ou alors si l'Isha est tôt, on mange après l'Isha. Mais ne jamais, même parfois, on parle avec des jeunes qui font du sport et tout, je dis c'est très bien. Il me dit, mais mon frère, tous les mercredis soirs, tu vas jouer au football, terrain, je sais pas, comment appelle le terrain là-bas là, des Alice. Bref, pas besoin de dire, après, ben, là-bas, connaître, il parle de zone. Tel terrain, tous les mercredis soirs, 18, tous les mercredis soirs. Il me dit donc, tous les mercredis soirs, on fait pas Isha, en jamat. Après, il dit, oui, mais il nous fait sur terrain. Je dis, mais c'est pas pareil. La salat, ça compte en jama'at, mais idéalement, c'est de faire la masjid. C'est-à-dire, il faudrait éviter que régulièrement, on rate un salat en jama'at. Parce que si je fais passer mon entraînement, mon match et tout, avant un salat en jama'at, c'est que je suis prêt à faire passer ce que j'aime avant ce qu'Allah aime. Est-ce qu'on peut encaisser ça? Je suis prêt à faire passer ce que j'aime avant ce qu'Allah aime. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, petite anecdote, hein, vous connaissez... Et quel est là 20 minutes. Vous connaissez Mouna Mounir, hein, qui vient de quel, parfois. Hein. Ce qui est admirable chez cet homme, je ne le connais pas plus que ça. Je ne connais pas plus que ça. Ce qui est admirable chez cette personne, c'est que qu'il soit Montreuil, qu'il soit en ville, n'importe quelle salade vous allez, enfin, quand vous arrivez un peu plus tôt, il est là. Avant de commencer, il est là. Il est là, avant que Takbir Oula. Et quand il est invité chez quelqu'un, il s'arrange pour qu'il puisse quitter la table, il demande ijaza, poliment, istidhan, qu'il puisse quitter l'endroit, la maison, 15-20 minutes avant la salah, pour pouvoir faire son wuzu et être présent au premier saf, et être présent à Takbir Oula. Ça, c'est admirable. Ça, je vous dis franchement, c'est admirable. Et on doit être capable de tirer le meilleur chez chaque personne. Chaque mu'min a des qualités. Je vois cette qualité qui est bariz. Hein, il y a d'autres qualités que ça, Allah seul le sait. Mais ce qui est visible, ce qui est frappant, et ce qui est, excusez-moi, qui est rare. Je suis le premier à en parler, qu'on ne retrouve pas chez tous les ulama aussi. Je suis le premier à être en retard. Qu'Allah me pardonne. Mais moi, quand je vois un savant qui est présent, premier saf, avant chaque salah, je me dis que ça, c'est fort. Et on a besoin de prendre exemple sur ce genre de personnes. Hada. Comment savoir si j'ai les qualités pour prétendre être sous l'ombre du trône d'Allah le jour des comptes? C'est comme les sahaba, les tabi'in, même quand on est malade, on vient à la masjid pour faire la salat en jama'a. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, hadith d'Imam Muslim, dit que وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقْ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Il dit qu'à notre époque, Ibn Mas'ud, il dit à notre époque, les seules personnes qui ne venaient pas à namaz, qui ne venaient pas faire la salat en jama'a, c'était des munafiqs, les hypocrites, que tout le monde connaissait, c'était un hypocrite. Eux, ils ne venaient pas. Mais à part ça, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا. Il y a des gens qui venaient et on les transportait بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَّفِ. Il y a des gens qui étaient malades, mais ils s'arrangeaient avec la famille ou des amis ou des voisins pour le transporter à la masjid. Hein, on le soutenait quand il marchait et on le mettait dans le saf, dans les rangs, et il faisait la salat en jama'a. Parce que pour un sahaba, rater un namaz en jama'a, c'est inconcevable. Autre hadith de Sa'd ibn Ubaïda, de Abu Abdurrahman, il dit annahu kana yuhmal wa huwa marid ila al masjid. Dit que on le portait. Il était malade, marid, on le portait pour l'amener à la masjid, mais en aucun cas il n'acceptait de faire namaz à la maison, même quand il était malade. Ça, c'est malade qu'on ne peut pas marcher, on devait le porter. Nous, pour, je parle pour moi en premier, pour des raisons futiles, fatigué, ah, le corps il donne pas là, pas en forme là, le temps pas bon, ou alors la tête fait un peu mal, point oui, point non, sans raison valable, on délaisse la salat en jama'a. Voilà, on est arrivé, je ne sais pas moi, par exemple, on sort du travail le midi un peu tard, on est arrivé à 1h moins 10, ben il dit, écoute, allons manger, après on fait namaz à casa, après on aller travailler. Ça, il faut éviter. C'est-à-dire faire en sorte de ne jamais faire passer quelque chose avant la salat en jama'a. Signe que mon cœur est attaché à la masjid, même dans des moments de difficulté, ne jamais rater une salat, même quand on est en danger. Saïd ibn Musayyib, hein, tabi'in très connu, à un moment donné, il avait des problèmes avec le gouverneur Tariq. Je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est Tariq ibn Ziyad, d'accord? Et Tariq essayait d'assassiner Saïd ibn al-Musayyib. Très souvent, les grands savants, ils étaient persécutés. Et donc, quelqu'un lui a dit que, ben, essaie de te cacher. Pourquoi tu sors? Il allait, malgré que sa tête était mise à prix, il allait faire la salat en jama'a. Il allait à la masjid. On a dit, mais essaie de te cacher. Il dit, abihaythu la yaqdirullahu alay. Il dit, je me cache où? Un endroit où Allah Azza wa Jalla aussi ne peut pas me trouver, il ne peut rien contre moi. Il a dit, non, il dit, mais ne serait-ce, hein, fais ta prière chez toi. Tu sais qu'il essaie de te trouver, il va te mettre en prison, il va t'exécuter. Il dit, comment ça? Asma' hayya ala al-falah wa la ujib. Elle dit, comment est-ce possible d'entendre Hayya ala al-falah et de ne pas accourir et de ne pas accepter, de ne pas répondre et répondre présent aussi. Comment est-ce possible qu'un mu'min entende Hayya 'ala al-falah et qu'il ne vienne pas à la masjid? Quand on annonce que le succès est dans la masjid et que je ne vienne pas. Il préfère laisser, hein, subhanallah, il préfère mettre sa vie en danger que d'abandonner une salat en jama'a. Quelqu'un dont le cœur est attaché à la masjid, son grand espoir c'est quoi? C'est de mourir un jour à la masjid. Je dois analyser mon rêve, c'est quoi? J'aimerais mourir comment? Il y en a qui disent j'aimerais mourir avec entouré hein, de ma femme, mes enfants, ma famille, que tout le monde soit là, mes enfants ils tiennent ma main, on est voilà, un truc comme ça. Bon, en général, on ne réfléchit même pas à ça. On n'a pas envie de trop réfléchir à tout ça, d'accord? Mais quelqu'un qui subhanallah, qui aime la masjid, qui a vraiment ses qualités, il entretient ce rêve et il fait doigt tout le temps. Oh Allah, accorde-moi la mort dans la masjid. Parce que la masjid, c'est une des maisons d'Allah Azza wa Jal. Et quand quelqu'un vient à la masjid pour une salat, tant que la salat n'est pas commencée, il est considéré comme étant la salat s'il est assis avec wuzu en attendant la salat. Et donc, il y a l'histoire de Abu Abdurrahman al-Sulami, hein, celui dont vient l'histoire tout à l'heure. Il avait cette envie, ce rêve, an ya'tihi al-maut wa huwa fi intidhar as-salah fi al-masjid. Il rêvait de trouver la mort alors qu'il est dans la masjid en attendant la salah. Et effectivement, à un moment donné, il était très malade, il était à la masjid, il était mourant. Et là, les proches lui ont dit, لو تحولت إلى الفراش. Elle dit que, oh, Abdurrahman, comment il s'appelait Abdurrahman al-Sulami, il aurait été mieux qu'on te ramène chez toi, hein, sur un lit, hein, un peu plus confortable, hein, ça va alléger un petit peu les difficultés. Et là, il a dit, vous savez pas que le prophète m'a dit que لا يزال أحدكم في الصلاة ما دام في مصلى ينتظر الصلاة. Vous savez pas que le prophète m'a dit que quand quelqu'un vient à la mosquée pour la prière et qu'il attend la salat, Allah Azza wa Jalla considère cette attente comme faisant partie de la salat et que les anges disent والملائكه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه, que les anges disent oh Allah pardonne-le, oh Allah accorde-lui ta rahma, ta pitié. فأريد أن أموت وأنا في مسجدي. Il dit que je veux mourir dans la masjid, dans cet état. Ne me ramenez pas à la maison. Hein, pour lui, ce n'était pas important d'être proche, d'être près de sa femme, ses parents, ou je ne sais pas moi, hein, ses enfants. Pour lui, c'est mourir dans la masjid en attendant la salah pour faire partie des gens qui meurent en état de salah. Ça, c'est vraiment le tamanna, le rêve de quelqu'un qui a le cœur réellement attaché à la masjid. À nous de faire notre analyse. Est-ce qu'on préfère mourir seul à la masjid ou auprès de sa femme et ses enfants? Humainement, on va se dire que j'aimerais voir une dernière fois mes enfants. J'aimerais voir une dernière fois ma femme. J'aimerais dire un dernier mot à mon fils avant de mourir. Ça, c'est l'envie de chaque personne quand il voit qu'il est les dernières heures de sa vie, d'accord? Le mu'min dont le cœur est attaché à la masjid, son souhait c'est quoi? C'est d'être dans la masjid, que lorsque Malik al-Maud reprend son âme, c'est qu'il est dans la masjid. Autre signe, on va terminer là-dessus parce qu'il y en a beaucoup. Autre signe, hein, pour savoir si mon cœur est attaché à la masjid, si je peux prétendre être parmi les gens qui seront appelés sous l'ombre du trône d'Allah. Les ulama disent que parmi ces signes, c'est qu'une personne est toujours présente au takbir oula. Hein, on reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais avec un hadith à l'appui. Quand le prophète alayhi salat wa salam a dit « Man salla lillahi 40 yawman fi jama'a yudriku at-takbirat al-oula » Lorsque une personne pendant 40 jours prie ses 5 salats en jama'a, en congrégation, avec le takbir oula, « Kutiba lahu bara'atan » Allah Azza wa Jalla lui accorde deux bara'a, c'est-à-dire deux protections. La première protection, bara'atum minan nar, la protection contre l'enfer. Et ça, c'est une garantie. C'est une promesse de la part d'Allah. Que la personne ne touchera pas l'enfer. Que l'enfer ne touchera pas cette personne. Que cette personne ne connaîtra jamais le nar ou jahannam. C'est une promesse de la part d'Allah. Est-ce que c'est pas ça l'objectif de notre vie? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَدْقِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَقَدْ Phase. Phase, c'est quoi? C'est le succès. Al-Fawz. Le succès, c'est celui qui a été éloigné de l'enfer et qui a accédé donc au paradis. Parce que celui qui est protégé de l'enfer, c'est qu'il entre au paradis. Donc, pour accéder au paradis, pour avoir la garantie qu'on va accéder au paradis, il y a différents a'mal à faire. Et parmi les actions, une des actions accessibles, c'est être présent, salat en jama'a, pendant 40 jours. Les 5 prières. Là, on ne parle pas des 40 années là, des tabi'in. On parle de 40 jours, les 5 salats accomplis en congrégation, ce qui fait un total de combien de salats? de son salat, accompli en jama'a. Donc la première garantie, c'est la protection minan nar, contre le feu de l'enfer. Wa bara'atun minan nifaq. Et là, c'est extraordinaire ça. Allah lui donne la garantie que son cœur sera toujours protégé contre l'hypocrisie. Et ça, c'est la chose la plus perverse à l'hypocrisie. Une personne se croit mu'mine, mais en fait, il a des atomes ou une présence de nifaq, d'hypocrisie dans son cœur. Tandis que cet homme-là, qui a été présent pendant 40 jours, 5 salats, il a la garantie que son cœur ne sera jamais touché par un nifaq, par l'hypocrisie. Il n'y a rien de plus dur que de combattre les péchés intérieurs. Ce qui est extérieur, je bois de l'alcool, je vole, je fume un mal, j'essaie d'arranger, j'essaie d'arrêter, j'essaie de demander tauba et d'arrêter. Parce que je vois mon péché. Les gens me disent, arrête de faire ça, c'est pas bien. Mais quand c'est quelque chose intérieur, nifaq, personne ne voit. Ça, c'est dur d'arrêter. Et quand on fait ces 40 salats, ces 40 jours de salat, Allah Azza wa Jal nous guérit de cette maladie et nous immunise, protège notre cœur contre cette maladie. Et parmi les muhadithines qui commencent le hadith, il dit que وَقَدْ لُوحِظَ, il dit, on a remarqué تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ وَبَرَكَةٌ عَظِيمٌ, on a remarqué une bénédiction extraordinaire dans la pratique de la religion, des personnes qui ont mis ce hadith en pratique. Il dit, beaucoup d'utulab al-ilm, beaucoup d'étudiants en sciences religieuses également, ils ont observé, ils ont mis en pratique ce hadith et on a vu une baraka, une bénédiction exceptionnelle dans leur vie. Et il dit que وَكَانَ سَبَبًا فِي تَغْيِيرِ مَجْرَ حَيَاتِ كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ طَبَّ. Il dit qu'on a vu beaucoup de jeunes, de shabab, de jeunes dont la vie a changé à partir du moment où ils ont mis en pratique le hadith. C'est-à-dire, la vie a changé. C'est pas que pendant les périodes-là, ils étaient extraordinaires et après, ils reviennent normal. Non, la vie de ces jeunes, c'est tout leur destin, leur taqdir, leur vécu a changé à partir du moment où ils ont mis le hadith en pratique. Parce qu'ils ont eu la protection contre Jahannam. Et la protection contre an-nifaq, contre l'hypocrisie. C'est-à-dire que le cœur devient pur. S'il n'y a pas de nifaq, il y a inshallah le ikhlas, oui ou non? Si le cœur, dans lequel il n'y a pas d'hypocrisie, c'est un cœur qui devient pur et qui devient sincère. C'est-à-dire que donc, beaucoup de jeunes qui ont mis en pratique ce hadith, on a vu un changement radical, extraordinaire de leur vie et une baraka. Les jeunes, ils recherchent quoi aujourd'hui? Le succès, la réussite dans les études, dans la vie professionnelle, dans la vie, incha'Allah, familiale, trouver une bonne fille, une gentille fille, avoir des enfants, fonder un foyer, avoir une maison, avoir une voiture, le travail. C'est ça ce que tout le monde souhaite et que chaque parent souhaite également pour leurs enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la réussite. Mais cette réussite-là ne peut avoir lieu qu'avec l'aide d'Allah et à partir du moment où Allah nous accorde la baraka dans ce qu'on va faire. Baraka, bénédiction d'Allah dans mes études pour que je réussisse mes examens. Baraka, bénédiction d'Allah dans mon orientation pour que je trouve la bonne voie. Baraka, pour que je trouve un bon travail. Baraka, dans mon travail pour que je réussisse. Baraka, dans ma recherche d'une bonne femme pour que je trouve la personne adéquate. Baraka, dans ma vie de couple pour qu'il n'y ait pas de tension, pour que je ne divorce pas, pour que tout aille bien. Baraka, dans ma vie familiale pour que Allah m'accorde des enfants fraîcheurs de mes yeux, qui deviennent pieux, qu'il y ait une bénédiction, une rahma qui descende de la famille. Le mot clé dans chaque entreprise de notre vie, c'est al-baraka, la bénédiction d'Allah. Quand je mange bismillahi wa ala barakatillah, on cherche toujours la baraka, alors que le manger est la même. On a ton plat biryani ou plat chiche kebab ou je ne sais pas quoi. Le plat est la même, qu'on demande ou non. Le kebab, ça n'a pas allé. Il est là. Le biryani reste la même. Une petite grainerie, ça n'a pas allé là. Mais malgré que ce qui est concret est présent, il va aller où? Il va aller dans mon ventre. Mais s'il y a la baraka, la bénédiction d'Allah, cette nourriture-là va me donner la possibilité de rester dans l'obéissance d'Allah et de faire le ta'a. Donc la clé dans chaque chose qu'on va faire, c'est demander l'aide d'Allah, bismillah, commencer par le nom d'Allah et rechercher sa bénédiction dans ce qu'on va faire dans les moindres choses de notre vie. Mais donc, subhanallah, que les jeunes retiennent ce hadith, que si on veut la baraka dans tout ce qu'on va entreprendre, il faut mettre en pratique ce hadith et Allah va accorder une bénédiction, une rahma, une baraka spéciale. Très souvent, il y a des gens qui se disent, j'aimerais changer, j'aimerais devenir quelqu'un de bien, mais je ne peux pas. trop fitna, n'a trop femme, n'a trop affaires, n'a trop affaires partout sur internet, sur télévision, sur portable, sur télé, toutes affaires, fitna partout. La musique partout, dans le bus, il y a la musique, dans grande surface, il y a la musique, dans la rue, il y a la musique, la nuit du sol, il y a la musique, partout, il y a la musique. Partout, il y a des femmes, partout, il y a des tentations, etc. On ne peut pas s'en sortir. Il l'a. Bien sûr que si, on peut s'en sortir. Demander l'aide d'Allah et ensuite faire les efforts. Si on fait un effort, quel est le hadith de base? Quand quelqu'un fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en harwala, en courant. C'est une métaphore. C'est-à-dire que vous faites un pas, Allah il voit que tu es sincère. Et Allah ouvre les portes, Allah vous accorde le kaboul. Allah vous accepte par rapport à votre effort. Mais subhanallah, les ulama disent qu'il y a différentes actions, on va terminer avec ça, il y a différentes actions qu'un musulman peut accomplir pour trouver un changement, j'allais dire radical, il ne faut plus utiliser le mot radical, parce que radical, ça fait radicaliste, un changement total dans sa vie. Si quelqu'un veut vraiment devenir un homme pieux, si je veux devenir un homme pieux, un waliullah, un proche d'Allah, il n'y a pas nécessité forcément de faire 8 années d'études ou faire quelque chose. Il n'y a pas de diplôme pour être proche d'Allah. Je peux être alim, mufti et être munafiq. Oui ou non? Fasiq, oui ou non? Oui. Je peux avoir la science religieuse et être le premier des pécheurs, le premier à désobéir à Allah. Il n'y a pas de garantie. Un diplôme ne donne aucune garantie, dans aucun sens. Maintenant, je veux un changement radical, total dans ma vie, venir dans le droit chemin parce que j'ai fait trop d'erreurs. Je ne sais pas. Je vais chercher à droite, à gauche, qui va m'aider, qui. Après, parfois, on va suivre un peu n'importe qui, les gens qui vous disent. Bref, quoi, différentes choses. Allah Azza wa Jal nous a montré les a'mal qui lui font plaisir. Et les a'mal qui nous ouvrent les portes du Kaboul. Parmi ces a'mal, les efforts qu'on va faire, ben il y a la salah. Cette salah, 40 jours de salah en congrégation, au takbir oula. Faites-le, faisons-le, pardon, et nous verrons un changement total. Et une bénédiction inondée, une rahma inondée, notre vie. Parmi les actions que les amas disent, là on sort du sujet, mais ça c'est moufid ça. Ça c'est pour notre vécu, pour connaître comment se rapprocher d'Allah. Je veux me rapprocher d'Allah? Je jeûne tous les lundis, tous les jeudis. Tous les lundis, tous les jeudis, je fais somme nafil, karem nafil. C'est un effort ça, oui ou non? C'est facile, c'est pas facile ça? Pas facile, en plein été. Quand il fait 40 degrés à 11h à midi, avec un degré d'humidité, comme on en a rarement vu, être en état de jeûne lundi et jeudi, ou les jours à Yamul Bayt, 3 jours du mois. Mais ça, c'est des actions qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, ça, c'est des choses en plus qu'on va faire pour Allah, et Allah, il voit. Allah voit les efforts qu'on fait, et quand Allah voit un être humain demander doigt, demander tawba, demander istighfar, demander oh Allah, accepte-moi, oh Allah, guide-moi cette fois-ci, amène-moi vers le droit chemin, et il fait des efforts avec ça. Pas que ces 500-là, il fait des efforts, il vient premier saf, takbir oula, il jeûne le lundi, le jeudi. Vous pensez qu'Allah ne va pas l'ouvrir les portes de Kaboul? Alors qu'Allah attend un effort. Qiyamul layl, et qu'Allah m'accepte en premier, après les autres. Tahajjud, Allah nous accepte tous. Tahajjud, qiyamul layl. Cette personne qui veut se racheter, revenir vers Allah, il jeûne le lundi, le jeudi, il fait tahajjud. Il se réveille 4h du matin, 4h15, il fait 2 rakats, ou 4 rakats, ou 6 ou 8 idéalement, il fait doua. Il demande à Allah tawbah, il est même doigt qu'il demande toute la journée. Vous pensez que quelqu'un qui fait autant d'efforts, Allah ne va pas l'accepter? Est-ce que vous pensez que avec ces efforts-là, Allah va demander, ben, où est ton diplôme de telle spécialité, telle... Là, wallah, que à pur, que à sincère, effort, Allah accepte. C'est ce qui est extraordinaire avec notre din, c'est qu'on peut devenir un homme pieux, j'allais vous dire en 24 heures, oui c'est possible. Si le cœur est pur, sincère, et ça Allah seul peut juger, personne n'a le droit de juger. Si le cœur est rempli de ikhlas, de sincérité, de désir de se rapprocher d'Allah, et on fait les efforts avec, Allah peut nous accepter en un jour, en une fraction de seconde. On peut devenir un proche d'Allah. Ça c'est la beauté, la magie, et ça c'est la facilité, l'ouverture qu'il y a dans notre din. Et ça rejoint les hadiths qui parlent du tawbah, qu'Allah est ghafour rahim, Allah pardonne. Vous êtes sincère, Allah est capable de pardonner. Sadaqa, autre action, autre effort, donnez la sadaqa. Régulièrement, association, masjid, des gens dans la rue, donner à manger aux gens, je fais cet effort avec mon argent. Vous croyez qu'Allah ne va pas m'accepter? Mais, mukhlisan lillah, avec sincérité, par sadaqa pour que les gens voient. Pas que me donne sadaqa, tiens mon photo, mets sur Facebook, un petit couvain. Il donne un sadaqa. Sur Twitter, waouh, Moulissa, je t'ai vu, tu donnes sadaqa. Hein, 25 000 personnes à retweeter. Non, ça, ça n'a pas d'intérêt. Le donner avec ikhlas, avec sincérité. Ça, ce sont là des actions qui nous ouvrent les portes d'acceptation de la part d'Allah Azza wa Jalla. Dhikrullah, tilawat al-Qur'an. Tous les matins, je me fixe un juz, deux juz, je lis. Tous les jours, je me dis, je vais lire 1000, subhanallah, 1000, alhamdulillah, 1000, Allah akbar, 1000 salat ala nabi, c'est le durud sharif, comme on dit, d'accord, 1000 fois, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, etc., etc. Je rencontre, une fois, il y avait un cheikh à Madina, il soignait les gens qui étaient malades. Il m'avait dit, est-ce que je t'enseigne cette science? J'ai dit, mais t'es pas trop chaud. Après, il m'a dit que, mais avant de t'enseigner, la première chose, c'est prépare ton cœur. Il a dit, il faut que tous les jours, tu lis 1000 fois la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tous les jours, tu lis 1000 fois la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku. Le quatrième kalima, wa lahul hamdu yuhyi wa yumeetu wa ilayhi al-khayr wa ala kulli shay'in qadir. Et 1000 fois, là, tu l'oublies. Preuve que je n'ai pas mis en pratique, d'accord ? Il m'a dit que si ton cœur est prêt, si ton cœur a toujours la pensée d'Allah intérieurement, là, tu peux être prêt pour apprendre certaines choses, pour soigner les gens qui sont malades, etc. Bref, le but, ce n'est pas de parler de ça. Le but, c'est de comprendre qu'un cœur vivant, on doit se fixer comme objectif qu'il n'est pas possible qu'un jour passe sans que je n'ai fait au moins 100 fois istighfar. Pas ça, je faisais 100 fois istighfar par jour. An-Nabi, alayhi salatu wassalam, celui qui ne faisait pas de péché, 100 fois il demandait istighfar. Et quand il demandait istighfar, c'est avec le cœur, mon frère. C'est pas stafullah, 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 tiens, garde mon édification, va. Il m'a envoyé un époque, stafullah, stafullah, stafullah. Tiens, il a mis une jolie photo sur son profil aujourd'hui. Vous savez, tiens, ça, stafullah. Ça, c'est pas istighfar, ça. Le ulama dit, hatta hada l'istighfar, yahtaj ila istighfar. On a déjà dit ça plusieurs fois. Ce istighfar-là nécessite un istighfar. Parce qu'on a pensé à Allah avec ghafla, insouciance. On a dit astaghfirullah sans réaliser qu'est-ce que je suis en train de demander. Je suis en train de m'adresser au Seigneur des mondes. Je suis en train de venir vers lui en pensant à mes péchés et avec conviction qu'il est Rahman, Rahim, Ghafur, Rahim. Je demande, oh Allah, pardonne, j'ai fait des erreurs, tu es Rahman, Rahim, je suis péché, oh Allah, pardonne-moi. Ça, c'est astaghfirullah. Quand le prophète, il faisait 100 fois astaghfar, c'est avec le cœur. Donc, Moumine doit se dire qu'il n'est pas possible que, on dit qu'il y a fitna partout, mais est-ce qu'on fait astaghfar partout? Il y a fitna partout, mais plus il y a fitna, plus on doit demander istighfar. Ça, c'est les qualités qu'on doit essayer de développer. Et avec ça, on va terminer husnul khuluq, bon comportement. Comporte comme un être humain. Première étape, deux, comporte comme un mu'min. Comporte comme quelqu'un de noble, avec le proche, famille, les enfants, madame, les parents, etc., etc. Les voisins, musulmans, non musulmans. Dire que quand quelqu'un dit que oui, mais c'est trop dur de nos jours à pratiquer, c'est pas trop dur. Règle les paramètres de ton cœur. Remplis ton cœur de sincérité, fais un vidange. Fais un vidange, enlève nifaq, mauvaise pensée, jalousie, méchanceté, toutes les choses mauvaises qu'il y a dedans. Remplis ce cœur de sincérité, demande à Allah de t'accepter et fais les a'mal. Les a'mal en plus, tes 500 jama'a, oui, mais viens premier l'heure, takbir ou la première sab, jeûne le lundi et le jeudi, tous les soirs réveille-toi tahajjud, donne sadaqa tous les jours je donne, même si c'est 2 euros. Un euro tous les jours, fixe-toi un quota de dhikrullah, un quota de lecture du Coran, et essaie d'être le plus correct envers les gens, que ton comportement soit un motif de hidayah, de guider. Vous allez voir si Allah Azza wa Jal ne nous fait pas, subhanallah, atteint les plus hauts degrés de la foi. Tellement simple d'obtenir le contentement d'Allah. Qu'Allah nous accepte, qu'Allah m'accorde à moi-même en premier, ensuite à vous. Non, qu'Allah nous accorde à tous le tawfiq de comprendre ce que je dis ces paroles, j'ai pas mis 1% en pratique, hein, et qu'Allah me pardonne, et qu'Allah me permette, nous permette à tous de mettre, hein, ces paroles-là en pratique, d'être réguliers dans notre salat en jama'a. Wallahi, qu'Allah nous pardonne au rafla, hein, quand il y a match, quand il y a des choses comme ça, hein, on se couche tard et on se réveille tard, on vient pas namaz en jama'a. Quels que soient les cas de figure, les générations, les uzr, les excuses qui sont parfois valables, parfois pas valable, les manquements. Hein, il y a des fois où on est à la maison, on a mal dans 15 minutes, on se dit que bon, on a encore 15 minutes. Allons, je sais pas, boire un petit jus, regarder la la télé, allons passer un petit coup de fil. Et après, si la salat est 8 heures, ah, maintenant il est 8 heures, 7h59. Allons vite. Vous arrivez, vous faites votre voudou, 3 rakats est déjà passé. Et on se dit que ben, à 8h moins de 15, j'étais prêt. Mais qu'est-ce qui fait que je suis resté faire autre chose? C'est Shaitan. Shaitan, il connaît qu'est-ce qu'on a gagné dans la masjid. Shaitan, il sait qu'est-ce que ce musulman va gagner en venant takbir oula. Il va essayer de nous détourner. Donc tous ces moments de faiblesse, d'égarement, qu'Allah ait pitié de nous, nous pardonne et nous permette de revenir vers le droit chemin. Il y avait d'autres exemples, Inch'Allah on va rester pour la prochaine fois et on va voir encore et encore d'autres qualités de ces sahaba tabi'in dont les cœurs étaient réellement attachés à la masjid. Et bonne nouvelle Inch'Allah, à partir de ce vendredi, on a eu les autorisations qu'on voulait, les cours de tafsir au latanier seront pour hommes et dames Inch'Allah. On était en négociation, il y avait des petits problèmes de sono, l'arrivée du son, etc. Tout est réglé, alhamdulillah, à partir donc de ce vendredi, si on peut faire passer le message aux dames qui habitent dans le secteur des Lataniers, les cours de Tafsir ibn Kathir qu'on fait après la Salat al-Isha le vendredi soir, maintenant seront accessibles également au public dames. La salle qu'on sait, la rue, je sais pas, la Lorraine, je sais pas comment on appelle ça, l'entrée par derrière, il y aura le micro, il y aura tout à partir de ce vendredi. Et le responsable du Montra également avait dit que dès la rentrée, on pourrait le faire le mardi soir. Possibilité de faire pour les dames aussi, il y a l'espace pour accueillir. On le fera, Inch'Allah, mais je pense qu'on termine ce chapitre avant. Parce que ce chapitre, on va dire, sera un petit peu plus en rapport avec les messieurs, la fréquentation de la masjid. Une dame qui vient, qui entend fréquenter la masjid, sur les bêtes de vue, va dire, ouais, ben, c'était un nouveau vieux, on va avoir des problèmes. D'accord? On va attendre le prochain chapitre, les personnes qui ont muhabba pour Allah. Et ça, c'est important. Et à partir du moment où on va rentrer dans ce chapitre, là, on va s'arranger pour que la salle puisse accueillir également nos mères et nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.